peuples ont le sentiment d'avoir perdu leur souveraineté. Le populisme, c'est justement le fait de rendre à nouveau le peuple souverain.
Le Christ qui n'est pas uniquement migratoire, mais aussi le Christ intellectuel et idéologique. Est-ce que vous croyez que dans les prochains ans, l'Europe de Maastricht va tomber ?
Bien sûr, il y a un manque de crédibilité de l'Union européenne aujourd'hui qui est lié à beaucoup de paramètres. En réalité, les peuples ont le sentiment d'avoir perdu leur souveraineté. C'est vrai partout en Europe et même d'une certaine façon, c'est vrai dans l'ensemble du monde. On voit bien ce qui s'est produit aux États-Unis ces derniers temps. Le peuple américain, lui aussi, a l'impression d'avoir perdu sa souveraineté. Et c'est certainement, en grande partie, l'explication de l'élection de Donald Trump. Pourquoi est-ce que je parle des États-Unis ? C'est tout simplement pour dire que les problèmes qui se posent chez nous avec l'Union européenne se posent en réalité partout dans le monde. Et chez nous, ces problèmes se cristallisent souvent autour d'une critique de l'Union européenne. Alors certes, pleinement justifiée, mais on ne peut réellement comprendre le sens de cette critique que si on replace le problème dans une perspective plus large. Pourquoi donc est-ce que les peuples européens en ont assez de l'Union européenne ? Tout simplement parce que l'ensemble des peuples du monde ont l'impression d'avoir perdu leur souveraineté au profit de puissances beaucoup plus globales. C'est lié au phénomène lui-même de globalisation, qui est un phénomène à la fois politique et économique. Les peuples ont perdu leur souveraineté au plan politique parce que les États-nations n'ont plus de pouvoir. Ce pouvoir réside en grande partie entre les mains de technocrates, que ce soit à l'échelle planétaire ou à l'échelle européenne, avec le problème de l'Union européenne. Mais dans le même temps, on voit aussi que la perte de souveraineté est économique, parce que le phénomène de globalisation rend les multinationales de plus en plus puissantes, et ces multinationales sont en état de dicter leurs lois au pouvoir politique. Et on voit par exemple que la France, qui est encore la cinquième puissance économique mondiale, n'est plus en capacité de lutter contre des multinationales quand des conflits éclatent. Par exemple, quand une grande entreprise veut délocaliser sa production en dehors de la France n'a pour ainsi dire plus les moyens d'empêcher ce processus. Donc l'ensemble de ce phénomène de globalisation, qui est à la fois politique et économique, donne aux peuples le sentiment qu'ils n'ont plus de pouvoir. Et l'Union européenne, bien sûr, joue un rôle là-dedans. Et de ce point de vue, je pense que la critique de la technocratie bruxelloise, de la technocratie européenne, est juste. Mais il est important de comprendre qu'en réalité, la technocratie bruxelloise, la technocratie européenne ne sont qu'un aspect d'un problème beaucoup, beaucoup plus vaste.
Quand on a vu les élections de Trump, on a vu que les élites globalistes ne sont pas uniquement américaines. Nous avons vu un phénomène de délocalisation des élites. Aujourd'hui, certains politologues disent que le nouveau centre de globalisme sera l'Allemagne. Certains disent que ce sera France si Macron va gagner. Selon vous, où peut localiser le nouveau centre de globalisme ?
Le véritable problème, c'est que la contestation contre la globalisation existe, mais cette contestation est éclatée. Si vous prenez les représentants du système, ceux qui défendent la globalisation, certes, parfois, ils militent dans des partis différents. Mais en réalité, ces partis, quoique différents, se sentent unis sur l'essentiel, et en cas de difficulté politique, ils se rassemblent. C'est ce qu'on appelle en France le Front républicain, mais ça existe sous d'autres formes dans tous les pays. Autrement dit, ceux qui défendent la globalisation sont tout à fait capables de s'unir quand c'est nécessaire pour remporter le pouvoir politique. En face, il y a des opposants à la globalisation qui sont nombreux et qui sont presque majoritaires. Les études d'opinion en France montrent que la critique de la globalisation représente 50% de la population française. Pourquoi est-ce que ce sont toujours les partisans de la globalisation qui sont au pouvoir et pas les opposants à la globalisation ? Eh bien tout simplement parce que les opposants à la globalisation sont désunis. Il y a d'un côté des opposants à la globalisation qui sont d'extrême gauche, d'autres qui sont d'extrême droite, ou en tout cas qui se disent d'extrême gauche ou d'extrême droite. Il y a d'un côté des nationalistes, de l'autre côté des internationalistes. Ces gens-là ne parviennent pas à s'entendre. Ils sont d'accord sur la critique. De la globalisation, et encore, ils n'osent même pas le reconnaître qu'ils sont d'accord là-dessus, tellement c'est difficile pour eux. Mais en réalité, ils sont en désaccord sur le reste. Donc ce camp est divisé et ne parvient pas à prendre le pouvoir, alors qu'en face, les partisans de la globalisation sont unis et conservent le pouvoir. On se situe donc dans une situation très paradoxale, où on a deux camps qui sont, pour ainsi dire, d'égal poids politique, mais c'est toujours le même camp qui a le pouvoir parce que c'est le seul camp uni. Il sera difficile de sortir de cette situation parce que les motifs de désunion au sein des opposants à la globalisation sont des motifs réels sur des points importants. la seule chose qui pourrait permettre de créer une union entre ces camps, ce serait la rupture avec un positionnement souvent radical. Parce que il ne s'agit pas de remettre en cause la radicalité à l'opposition à la mondialisation. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui s'opposent à la mondialisation viennent de milieux radicaux, traditionnellement. Et ils ont une culture de la radicalité. Ils n'ont pas de culture du compromis stratégique autour d'objectifs prioritaires. C'est ce qui fait que les gens qui se disent d'extrême gauche aujourd'hui ne peuvent absolument pas envisager une union avec les gens qui se disent d'extrême droite en France. Il n'y a pas de culture du compromis dans ces courants de pensée-là, et tant qu'on ne découvrira pas la culture du compromis, je pense qu'il sera impossible pour les opposants à la mondialisation de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre.
Est-ce que vous croyez que le populisme, c'est une sorte de transgression de cette clivage gauche-droite, et c'est la possibilité de nouvelles formes de dialogue entre les gauches et les... Bon, l'ex-gauche et l'ex-droite?
Oui, d'une certaine façon. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on parle de perte de la souveraineté des peuples, on défend bien le populisme, puisque le populisme, c'est justement le fait de rendre à nouveau le peuple souverain. Donc, on a en fait de nouveaux clivages qui sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, même les partisans du système en ont conscience et le revendiquent. Il y a d'un côté ceux qui défendent la mondialisation et qui, au fond, sont du côté de la technocratie, de ceux qui remettent en cause donc la souveraineté des peuples. Et puis, de l'autre côté, il y a les partisans de la souveraineté populaire. Et donc, oui, le populisme représente l'opposition à la mondialisation. Mais tant que le populisme sera écartelé entre un populisme d'extrême gauche et un populisme d'extrême droite, sans aucune culture du compromis, eh bien, le populisme restera impuissant en réalité.
C'est comme Eric Fasson, en polémique avec Alain de Benoît, je crois, a dit qu'il y a deux populismes. Alain de Benoît représentait le premier, selon Eric Fasson, je crois. Et il présentait le populisme de droite, et Eric Fasson, si je ne trouve pas du nom, il a dit qu'il représente, comme Chantal Mouffe aussi, le populisme du gauche. Mais quelles sont, si on parle de populisme, si on parle de moment populisme, quelles sont les qualités de ce moment? Quelles sont les qualités de cette idéologie? Est-ce que c'est l'idéologie ou c'est la transgression de l'idéologie?
Le problème, précisément, je pense, aujourd'hui du populisme, c'est que ce n'est pas une idéologie cohérente. Ce n'est pas une critique contre le populisme en tant que tel. Je constate que ceux qui se disent populistes aujourd'hui défendent des idéologies souvent très différentes. Il y a un noyau commun, le retour à la souveraineté populaire, mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'incohérences et même de contradictions. Le populisme a d'abord des racines historiques. Le populisme est un courant d'idées né au XIXe siècle, en Russie et aux États-Unis. Ce courant d'idées était un prolongement de l'anarchisme français. Initialement, le populisme, c'est une variante du socialisme ou de l'anarchisme qui est à la fois opposée à la globalisation capitaliste qui était en train de se mettre en place au XIXe siècle, mais qui en même temps défendait les valeurs conservatrices des provinces, des campagnes, des paysans, des artisans, des petits commerçants contre le grand capital naissant. Ça, c'était le populisme d'origine. Aujourd'hui, le populisme est devenu très différent. Souvent, les populistes défendent en réalité un positionnement étatiste avec la défense d'un homme fort qui représenterait le peuple. Ça n'était pas le populisme d'origine. Ça, c'est un premier clivage au sein de la famille de pensée populiste. Il y a d'un côté des populistes qui défendent le pouvoir par la base, directement assumé par le peuple, et puis des populistes qui pensent qu'il doit y avoir un leader au sommet qui dirige au nom du peuple. Ça, c'est un premier clivage très très important. Et puis après, il y a aussi un clivage, bien sûr, qui est basé sur la conception même du peuple. Est-ce que le peuple, ce sont seulement les citoyens? Ou est-ce que le peuple, ce sont aussi des racines ethniques? Et à partir de là, on voit bien le clivage actuel entre le populisme de gauche et le populisme de droite, avec des gens qui pensent que les citoyens n'ont pas de racines ethniques, ce sont simplement des citoyens qui évoluent dans la sphère des idées, si on peut dire, et puis d'autres qui pensent au contraire qu'il y a des racines ethniques très fortes, et que ces racines, nous y sommes attachés d'une manière imprescriptible. Ça, c'est un autre clivage très important au sein des familles populistes.
Et si on regarde dans la scène politique d'aujourd'hui, nous voyons que Mélenchon, c'est la populiste d'extrême droite, d'extrême gauche. Est-ce que nous pouvons utiliser cette catégorie comme ça, ou c'est pas totalement...
En réalité, je pense que les vrais clivages sont ceux que j'ai décrits à l'instant et pas du tout des clivages de type gauche ou droite. Parce que quand on regarde Mélenchon et Marine Le Pen, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de points communs entre eux. Il y a des différences, certes, mais il y a beaucoup de points communs. Si on reprend les clivages que je présentais juste précédemment, ils ont un point commun, c'est que tous les deux défendent un populisme par le haut. Parce que tous les deux sont jacobins, c'est-à-dire qu'ils défendent l'idée qu'il y a une centralisation du pouvoir. Alors, cette centralisation est peut-être plus marquée chez Marine Le Pen que chez Jean-Luc Mélenchon, qui défend tout de même l'idée d'une participation du peuple au pouvoir. C'est vrai, mais quand même, Mélenchon reste un jacobin, fondamentalement, il défend la centralisation. Et ça, ça le rapproche profondément du Front National. Il pourrait y avoir une autre différence, quand on prend l'autre clivage que je présentais à l'instant, c'est la différence entre le peuple en tant que citoyen et le peuple en tant que représentant de racines ethniques. On pourrait dire que d'un côté, Jean-Luc Mélenchon est du côté du peuple citoyen et Marine Le Pen du côté du peuple ethnique. C'est sans doute un léger clivage, mais quand on regarde l'évolution du discours du Front National, on constate qu'aujourd'hui, Marine Le Pen défend un discours qui, en fait, même sur ce point, rejoint celui de Mélenchon parce qu'elle insiste beaucoup sur le peuple citoyen, beaucoup moins que sur le peuple ethnique, au contraire de son père, Jean-Marie Le Pen, qui, lui, insistait sur le peuple ethnique. Donc je crois qu'aujourd'hui, même le populisme de gauche de Mélenchon et le populisme de droite de Le Pen, bien sûr, il y a des différences, mais il y a en réalité beaucoup de points communs. Mais il existe d'autres populismes, par exemple celui de Chantal Mouffe, qui est un populisme qui, lui, remet en cause à la fois le peuple ethnique et la centralisation par le haut. Et ça, c'est encore une autre forme de populisme. Le vrai clivage, il est là, je pense, au sein de la famille de pensée populiste.
C'est comme Marine Le Pen disait pendant les régionales qu'il n'y a pas plus de clivage de gauche-droite, il y a des clivages entre les globalistes et les patriotes, et en même temps qu'Alain de Benoît, il y a 20 ans, oui. Il a constaté cette clivage. Si on regarde aujourd'hui la scène politique d'élections futures, de futures élections, nous voyons que nous n'avons pas, peut-être, selon Ipsos, EFOP et Opinion Way, nous n'aurons pas dans le deuxième tour qu'un parti. Donc nous aurons juste Front National qui n'est pas ni gauche ni droite, et nous aurons l'autre candidat qui n'est pas aussi, qui se qualifie comme ni gauche ni droite. Est-ce que ça symbolise la nouvelle époque de la politique, le nouveau période idéologique, de combat idéologique en France et en Europe?
Oui, certainement, mais en même temps, ce ni gauche ni droite n'a pas exactement le même sens chez tout le monde. Par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Macron défend le ni gauche ni droite, mais en réalité, c'est tout simplement parce qu'il conjugue la gauche et la droite qui ont gouverné au cours des dernières décennies. Donc il dit ni gauche ni droite parce qu'il veut se distinguer d'un système qui a mauvaise presse auprès de la population. Mais en réalité, il incarne le système, il l'incarne profondément. Il dit ni gauche ni droite, mais c'est plutôt et la gauche et la droite de gouvernement. Marine Le Pen, elle dit ni gauche ni droite, elle représente en fait l'opposition au système. Jean-Luc Mélenchon lui aussi défend des positions qui se rapprochent beaucoup du ni gauche ni droite, beaucoup plus aujourd'hui en tout cas qu'il y a quelques années. Donc vraiment ce ni gauche ni droite aujourd'hui, d'un côté il montre que les anciens clivages ont explosé, et en même temps il y a une part de propagande souvent chez les politiciens, parce que la gauche et la droite qui ont gouverné ont mauvaise presse. Et donc les politiciens essaient de se distinguer de ces anciens partis de gouvernement. Alors dire ni gauche ni droite, ça peut être aussi une manière de tromper les électeurs pour dire « Vous voyez, moi je n'ai rien à voir avec les gens qui ont gouverné par le passé », alors qu'on peut avoir beaucoup à voir avec les gens qui ont gouverné, et je pense notamment à Emmanuel Macron.
Si on regarde aujourd'hui l'Europe et le monde, la démocratie a fini, ce que nous voyons de la part de la Russie, nous voyons que l'Europe c'est une sorte de dictature totalitaire de la pensée unique. Si on essaie de rétablir la démocratie, qu'est-ce que c'est la démocratie à l'européenne? Qu'est-ce que c'est la démocratie européenne?
En fait, il y a beaucoup de conceptions de la démocratie. Moi, j'en distinguerai trois fondamentalement, on pourrait même en envisager plusieurs, mais autour d'un axe qui me paraît très important. L'Union européenne, c'est la démocratie technocratique. Autrement dit, bien sûr, il faut des lois dans une démocratie, mais l'Union européenne, c'est le moment où les lois s'affranchissent du peuple. C'est le moment où les lois deviennent autonomes, et c'est là qu'on peut parler de technocratie, c'est-à-dire que les gens qui font les lois n'ont plus grand-chose à voir avec le peuple en réalité, parce qu'ils gouvernent à Bruxelles ensemble en décrétant des normes. Ça, c'est une première conception de la démocratie, et c'est celle qui domine aujourd'hui en Europe. Il y a une deuxième conception, c'est une démocratie qui est incarnée, une démocratie plébiscitaire, qui est incarnée dans un leader qui met en place des réformes au nom du peuple. Et il y en a un troisième type, c'est lorsque le peuple se réapproprie directement le pouvoir. Moi, je crois beaucoup personnellement à une démocratie par la base. Je pense que la démocratie par la base permet au peuple de s'investir directement dans les affaires du pouvoir. Et je crois que c'est la manière la plus sûre pour le peuple de conserver sa souveraineté. Parce que bien sûr, un peuple peut être représenté par un grand leader, par un leader puissant. Et peut-être parfois ce leader va gouverner dans un sens qui est conforme à la volonté populaire. Mais on ne peut pas en être assuré sur la durée. Et c'est pourquoi, pour ma part, je crois beaucoup au populisme et à la démocratie telle que la conçoit par exemple Chantal Mouffe. C'est-à-dire que c'est l'idée que pour assurer la vivacité de la démocratie, Il faut rendre du pouvoir au peuple directement pour que le peuple puisse se réengager dans la vie politique. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup parce que le peuple aujourd'hui n'a plus de rapport direct avec la politique et ça aboutit à une déresponsabilisation des populations qui conduit à la bêtise, à une bêtise générale qui est profondément nuisible pour la civilisation.
Et si Emmanuel Macron va gagner, par exemple, est-ce que vous croyez que ce sera le début de la révolution du peuple contre les élites? Est-ce que le peuple français est prêt pour ça?
C'est le contraire qui va se passer si Emmanuel Macron l'emporte. Si Emmanuel Macron l'emporte, c'est la victoire de la démocratie technocratique telle que je viens de la décrire. Voilà ce qu'il représente. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon représentent la démocratie menée par un leader. Moi, je pense que nous avons besoin d'une autre alternative aujourd'hui qui fasse vraiment exploser tout l'ancien système dans son intégralité. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus non-conformiste dans le paysage intellectuel aujourd'hui. Ce sont les gens qui nous disent « nous avons besoin d'une véritable alternative ». Pour ma part, je milite pour cette forme de démocratie, un renouveau de la démocratie par la base, pris en charge directement par le peuple.
Est-ce que vous croyez que, par exemple, Macron serait le président pendant les premières mois ou premières années de son présidence, est-ce que vous croyez qu'il y ait une sorte de cette révolte idéologique, cette révolte métapolitique aura place? Est-ce que ce sera le temps pour faire la révolution pour les agences de réinformation, pour le peuple? Est-ce que ça sera...
Alors, vous savez, ça fait de nombreuses années en France, beaucoup d'élections. À chaque fois, l'homme politique qui remporte l'élection se présentait comme en rupture avec le système précédent. Lorsque Nicolas Sarkozy a remporté l'élection, c'était le candidat de la rupture avec Jacques Chirac. On a vu ce qu'il en a été, ça a été le candidat du système. Lorsque François Hollande a remporté l'élection, c'était le candidat du changement. Le changement par rapport à Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça a été? Ça a été le prolongement du système. Et maintenant, Emmanuel Macron recommence, c'est le ni droite ni gauche. Il prétend rompre avec le système, ça va prolonger le système. Donc, il va se produire avec Emmanuel Macron, ce qui s'est produit avec les deux présidents français précédents, c'est qu'il va décevoir très rapidement. Et ça va contribuer à faire éclater de plus en plus le système politique français, parce que de déception en déception, et presque d'escroquerie politique en escroquerie politique, le peuple français en a assez de ses élus, et ça crée un climat insurrectionnel qui est de plus en plus tendu, et même de plus en plus dangereux, à vrai dire. Donc, d'un certain côté, ça crée un climat favorable à des alternatives, dans un climat chaotique, certes, mais tout de même un climat favorable aux alternatives. Simplement, il y a une chose qui m'effraie, c'est que si Emmanuel Macron l'emporte, il va l'emporter sur une base prétendument centriste, enfin centriste en tout cas, dans le sens où il va attirer à lui la droite de la gauche et la gauche de la droite. Et donc, qu'est-ce que ça va produire? Ça risque de produire le fait que un grand parti central centriste va se mettre en place en France autour d'Emmanuel Macron s'il remporte la présidentielle. Et donc, on aura deux autres partis qui vont se constituer très probablement, l'un très à gauche, l'autre très à droite. Et aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont des positions qui sont extrêmement proches. Ils n'arrivent pas à s'entendre. J'ai peur qu'avec l'élection d'Emmanuel Macron, il soit encore plus difficile de s'entendre pour tous les candidats qui veulent réellement remettre en cause le système. Et je parle de Mélenchon et de Le Pen, mais je parle aussi de toutes les autres formes d'alternatives qui existent au système. Et donc, mon angoisse, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron crée certes des conditions favorables à une révolte populaire d'envergure, mais en même temps rend très difficile de proposer des idées qui rompent véritablement avec le clivage droite-gauche. Or, je pense que nous en avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de rompre avec ce clivage. Et mon angoisse, encore une fois, c'est que l'élection d'Emmanuel Macron rende impossible, pendant plusieurs années, le déplacement d'un député. Les peuples ont le sentiment d'avoir perdu leur souveraineté. Le populisme, c'est justement le fait de rendre à nouveau le peuple souverain.